Seigneur notre Père, de tout notre cœur, nous voulons te rendre grâce parce que tu as une parole de vie pour nous ce matin. Tu veux nous donner la joie de ton salut, tu veux nous fortifier, tu veux te révéler plus profondément à notre cœur que tu ne l'as déjà fait. Chaque jour, Seigneur, avec toi est une nouvelle aventure et nous allons vers de nouvelles découvertes. Tu es le Dieu infiniment grand, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Père de Jésus-Christ. Et tu as de merveilleuses choses pour nous. Tu veux être notre Dieu, tu veux être notre Père, notre Consolateur. Et nous voulons de toi, Seigneur, parce que tu es le bien le plus précieux. Parle à notre cœur pour ta gloire. Amen. Ce matin, je voudrais vous donner un mot. Enfin, ça va être dans une petite phrase. Mais ça va être un mot nouveau. C'est un mot d'origine grecque que j'ai pris la liberté de franciser. Donc je vais vous dire, soyez des parisiens. Vous avez bien entendu, hein? Pas des parisiens, mais des parisiens. C'est un mot qui signifie avoir de l'assurance, avoir de l'audace, avoir de la hardiesse. Alors, soyons des hommes et des femmes pleins d'assurance, pleins de hardiesse, pleins d'audace. Soyons donc des... Oh ben dites donc. Bon, on va le refaire, hein. Soyons donc des... Ah ben c'est mieux, soyons des parisiens. Alors certains pourraient me dire, mais tu veux que nous soyons pleins d'assurance? Des parisiens. Mais au fait, c'est à quel propos? Eh bien, ce mot-là a été employé dans la Bible et de manière insistante à propos du témoignage des premiers chrétiens lorsqu'ils parlaient de Jésus-Christ à leurs contemporains. Quand les premiers chrétiens parlaient de Jésus et en rendaient témoignage, ils le faisaient avec hardiesse, avec parésia, avec assurance. Et leur foi en avait vraiment besoin de cette assurance-là parce que ils n'étaient pas dans une situation confortable au début. Je pense par exemple à Pierre et Jean qui, tout au début de la vie de l'Église chrétienne, il y a 2000 ans, ce sont deux chrétiens qui ont guéri un homme qui était boiteux dès la naissance. Mais quand on fait du bien, ça ne fait pas toujours plaisir à certains. Donc les autorités de Jérusalem à cette époque-là ont trouvé scandaleux qu'ils accomplissent ce miracle-là. Et alors ils leur ont interdit de parler de Jésus et d'enseigner au nom de Jésus. Bien sûr, Pierre et Jean ont même été arrêtés et mis en prison. Les autorités ont fini par les libérer. Et quand ils les ont libérés, ils sont retournés parmi les autres chrétiens et ils les ont informés de l'ordre qu'ils venaient de recevoir de la part des autorités. Vous n'avez plus le droit de parler au nom de Jésus. Vous n'avez plus le droit d'enseigner au nom de Jésus. Et qu'est-ce que les chrétiens, ensemble avec Jean et Pierre, ont-ils fait? Ils ont prié. Et ils ont demandé à Dieu la parésia. Ils ont demandé à Dieu d'être des... Ah, il y en a qui réagissent, hein. Des parisiens, des gens d'audace, des gens avec de l'assurance. Et nous allons lire cette prière qu'ils ont adressée à Dieu, sachant que c'est la même prière qui pourrait monter de notre cœur, parce que, comme les premiers chrétiens, nous sommes dans la même situation, nous sommes invités par la parole, nous sommes invités par le Seigneur Jésus, à être témoin auprès des autres de la foi que nous avons reçue, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et nous avons donc besoin de cette assurance-là. Alors lisons à partir du verset 23, je vais lire dans la Bible du Semeur, et si vous n'avez pas votre Bible, le passage va s'afficher. Verset 23. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et le racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit, c'est-à-dire l'interdiction. Après les avoir écoutés, tous unanimes se mirent à prier Dieu, disant « Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit, par l'Esprit Saint, qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur, pourquoi cette agitation parmi les nations? Et pourquoi les peuples ont-ils conspiré pour rien? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les nations et les peuples d'Israël, ont formée dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance, dans ta puissance et ta volonté. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Autrement dit, de manière parésienne. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Avec assurance. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Verset 33. Avec une grande puissance, on pourrait dire avec une grande assurance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Les apôtres et tous les chrétiens rendaient témoignage avec force, avec puissance, témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. J'aimerais relire avec vous le verset 29 et le verset 31. Le verset 29, c'est la prière. Et le verset 31, c'est la réponse à cette prière. Seigneur, ils nous menacent. Ils veulent nous faire taire. On ne te demande pas ta protection. On ne te demande pas ton secours. On ne te demande pas de nous exiler ailleurs. On ne te demande pas de nous éloigner de ceux qui nous menacent. On te demande de nous donner de l'assurance. On te demande de faire de nous des chrétiens hardis, audacieux, capables de parler même quand il y a menace et danger. Et le Seigneur a entendu la prière. Il a immédiatement répondu, et vous avez remarqué qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annoncé la parole de Dieu avec puissance. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés et ils ont annoncé la parole de Dieu avec puissance. Les chrétiens ont demandé de l'assurance et ils l'ont reçue de la part de Dieu. Ils en éprouvaient le besoin. Et comme eux, nous éprouvons absolument le besoin de cette assurance ou de cette audace pour parler et pour témoigner de notre foi auprès de ceux que nous côtoyons, auprès de ceux que nous aimons. Si vous regardez la suite, des parisiens, c'est ce que nous sommes appelés à devenir ou à être. Et pour être des témoins auprès de nos contemporains, nous avons besoin d'être des parisiens. C'est pour la rime, mais c'est aussi pour mieux retenir cela, n'est-ce pas? Pour être des témoins auprès de nos contemporains, nous avons besoin d'être des parisiens, c'est-à-dire des gens pleins d'audace. Vous savez que ce n'est pas le désir d'être témoin qui nous manque. Je ne connais pas de chrétien qui ne désire pas être témoin auprès de ceux qu'il côtoie. Mais ce n'est pas évident. En tout cas, nous en avons le désir et nous sommes conscients que c'est quelque chose de très important dans la parole de Dieu et le Seigneur nous appelle à cette responsabilité, nous les croyants. Vous savez que le mot témoin est le mot qui ouvre le christianisme et qui le ferme. C'est le mot que Jésus a choisi en parlant des croyants, en leur disant « Vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, jusqu'à la fin du monde. » Les chrétiens furent les témoins de Jésus et l'Apocalypse, la fin des temps, vous savez comment elle définit les chrétiens ? Elle n'emploie pas le mot chrétien pour parler de ceux qui croient en Jésus. Elle dit que ce sont les témoins de Jésus. Le premier des témoins dans l'Apocalypse s'appelait Antipas. Son témoignage l'a conduit à la mort. Mais beaucoup parmi ceux qui ont cru s'appelaient les témoins de Jésus. Ça, c'est ce que Dieu nous appelle à être. Des témoins de la résurrection, des témoins de la vie nouvelle, des témoins de notre Seigneur Jésus. C'est pour cela que nous avons choisi le témoignage comme une valeur importante pour notre Église et que nous désirons que chacun de nous prenne conscience de cette responsabilité-là et qu'il la vive avec joie et avec plaisir. Il n'est pas question de vivre cette responsabilité comme un fardeau, mais comme un privilège, comme une belle occasion pour chacun de nous d'être en relation avec les autres que nous côtoyons. Et c'est pour ça que nous avons choisi cela comme valeur parmi les valeurs importantes. Des valeurs qui, lorsqu'ils sont installés dans notre vie, seront des valeurs qui donneront envie de connaître Dieu. Ce sont des valeurs qui donnent envie de Dieu, de le connaître, de l'aimer, de le servir. Dans le livret que vous pouvez avoir, il y en a encore à disposition, nous avons marqué les 7 valeurs que nous voulons vraiment manifester dans notre communauté. Nous avons déjà parlé de l'accueil. C'est un peu loin, mais vous pouvez réécouter la prédication, elle est sur Internet. D'ailleurs, vous pouvez aller sur le site de l'Église et vous trouverez les prédications du dimanche. Nous avons parlé du service. Nous avons parlé de la vie dans l'esprit comme valeur essentielle pour nous et comme valeur qui, lorsqu'elle est vécue, donnera vraiment envie de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais m'attarder avec vous ensemble sur cette nouvelle valeur. Témoin. Alors, dans ce livret, on a mis de petits textes qui résument ce que nous entendons par ces mots-là. La vie dans l'esprit, le service, l'accueil et témoin. Donc, je lis avec vous ce qui est marqué. Si ce n'est pas très clair, il y a le texte en plus grand à la suite. Nous croyons que chaque personne compte pour Dieu et qu'elle est aimée de lui. Nous savons aussi par expérience quels merveilleux bienfaits produisent dans une vie l'amour de Dieu et son pardon libérateur. Alors, nous voulons être des témoins de cette bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus, par sa vie et sa mort libératrice, est le seul espoir du monde, ou pour chacun. Il offre réellement une vie nouvelle dans l'amour de Dieu, en retrouvant la joie et la paix avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. Voilà ce que nous voulons voir se développer au milieu de nous et dans notre assemblée. Nous voulons être témoins auprès des autres personnes parce que nous savons qu'elles ont de la valeur aux yeux de Dieu. Elles comptent absolument aux yeux de Dieu, comme chacun de nous. Et nous voulons être témoins auprès de ces personnes parce que nous avons un trésor, parce que nous avons Jésus-Christ qui est l'unique personne qui peut accomplir ce à quoi aspire toute l'humanité. C'est Jésus seul qui est capable de satisfaire véritablement la vie des gens. C'est Jésus seul qui est capable d'apporter de l'espoir. C'est Jésus seul qui est capable d'apporter le salut. C'est Jésus seul qui est capable d'aimer sans condition et sans limite. C'est Jésus seul qui est capable de donner sens à la vie de chacun. Alors bien sûr, quand nous parlons d'être témoins, je ne veux pas simplement parler de chacun de nous individuellement. Je voudrais aussi qu'on prenne conscience que l'Église tout entière, comme communauté, comme assemblée, est appelée à être témoin. Vous vous rappelez que Jésus, lorsqu'il a envoyé les apôtres, il les a pas envoyés un par un, mais il les a envoyés deux par deux. C'est parce que la solidarité et la réalité de l'Église produit un fruit plus fort et plus nombreux pour ceux qui cherchent réellement Dieu. Vous savez que l'Église, c'est quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité. L'Église a été un instrument pour secourir les gens, pour les racheter, pour gagner les humains qui sont englués dans leurs problèmes, dans leurs difficultés, dans leurs soucis, dans leurs superstitions. Les premiers chrétiens sont venus pour arracher les hommes à la superstition et pour leur donner la connaissance de Dieu, pour les conduire à Jésus-Christ. J'aimerais qu'on prenne le temps de réfléchir à deux choses qui nous montrent que nous avons besoin d'être des parisiens. Nous avons besoin d'être des parisiens pour deux raisons que je vais développer. Et je vous l'ai dit toutes les deux dès le début. La première raison, c'est que nous avons besoin d'assurance et d'audace pour affronter l'hostilité du monde. La deuxième raison, c'est que nous avons besoin d'assurance et d'audace pour vaincre nos préjugés à l'égard du monde. Nous avons le sentiment que le monde nous est hostile, mais nous commettons beaucoup d'erreurs aussi à l'égard du monde et à l'égard des gens, parce que nous les cataloguons et nous perdons de notre assurance à cause des stéréotypes et des préjugés que nous formulons à l'égard des autres. Alors commençons par voir que nous avons besoin d'être des Parisiens pour affronter l'hostilité du monde. Les premiers chrétiens ont commencé immédiatement dans un univers qui leur était hostile. D'abord, cet univers, ce monde dans lequel ils ont grandi, a condamné à mort et tué leur maître. On a tué Jésus-Christ. Ceux qui marchaient avec lui ont vu leur maître souffrir de la souffrance la plus atroce. Et quand eux-mêmes ont commencé à parler, immédiatement, les gens se sont soulevés contre eux et on les a menacés. On les a pas simplement menacés, on les a arrêtés. Certains ont même été tués, vous vous rappelez? Étienne, par exemple, lapidé, condamné à mort. Donc, les premiers chrétiens ont évolué dans un univers absolument hostile. Et ils avaient le sentiment d'être constamment rejetés par les autres. Parce que leurs voisins, leurs amis, leurs collègues de travail, les associations auxquelles ils appartenaient, ne les acceptaient pas avec la nouvelle foi qu'ils exprimaient. Et ils étaient constamment sommés de rendre compte de leur foi. Quand un boucher devenait chrétien, il était membre d'une association de bouchers et sa conduite changeait. Alors, il fallait qu'il rende compte de sa foi. Il était parfois exclu de l'association. Et à cette époque-là, exclu de l'association, c'était perdre au niveau commercial, etc. Donc, ces premiers chrétiens étaient dans des difficultés très grandes. Vous savez qu'aujourd'hui, parler de Jésus dans certaines régions du monde, c'est prendre le risque de perdre sa vie. Donc, l'hostilité, elle est réelle, elle est authentique. Mais dans notre pays, il faut rendre grâce à Dieu. Il faut remercier le Seigneur de la liberté que nous avons. nous avons la liberté de parler. Personne ne nous mettra en prison. Et ça, c'est un privilège énorme. Mais ce n'est pas parce que nous avons la liberté légale que nous n'éprouvons pas un sentiment d'hostilité à l'égard du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que nous, les chrétiens, même si personne ne nous mettrait en prison, nous éprouvons un sentiment d'hostilité de la part des autres. Parce que notre foi est souvent dénigrée. Les médias, quand ils parlent du christianisme, ce n'est jamais dans les bons termes. C'est toujours pour ridiculiser. C'est toujours pour dénigrer. Je ne dis pas pour les autres religions, parce que souvent, on les encense, les autres religions. Hein, si on parle de bouddhisme, oh, ben le bouddhisme, c'est super, hein. Le christianisme, oh, c'est vraiment ça. En tout cas, c'est ce que nous ressentons, n'est-ce pas? Et ça, ça nous met quand même dans des difficultés, et ça, comment dire, ça nous enferme sur nous-mêmes. Et c'est alors que nous avons absolument besoin d'être des
parisiens.
Nous avons besoin de cette assurance, de ce courage pour ne pas nous empêcher de parler, pour ne pas nous recroqueviller sur nous-mêmes, mais pour parler avec la liberté que Dieu nous donne. Le mot parésia signifie les deux choses à la fois. La liberté et l'assurance et l'audace et la hardiesse. Et finalement, on a besoin de prendre la liberté de parler, puisque nous l'avons cette liberté-là. Eh bien, nous pouvons la saisir et en parler. La bonne nouvelle que j'ai vraiment pour vous, c'est que l'assurance, l'audace, c'est un don de la part de Dieu à chacun de nous. À chacun de nous. Amen. Si tu pries pour demander de l'assurance de la part de Dieu, il te l'accordera. Comme il l'a fait avec les premiers chrétiens. Si tu sens que tu as besoin de cette paresseia-là, pour parler avec liberté, réclame-la à Dieu. Et vous savez que Dieu vous donnera la capacité même de super bien parler.
Amen.
Je vous assure.
Ouais, c'est vrai, c'est la vérité.
Vous voyez? Merci à Esther, il faut qu'elle s'assoie toujours là parce qu'au moins... Hein, la grâce de l'Esprit qui habite en nous, qui nous remplit, fait en sorte que nous devenons des gens capables de parler, d'exprimer ce qu'il y a en nous et d'être témoins. C'est ce qui s'est passé pour les apôtres. Vous voyez que Pierre et Jean, c'était des pêcheurs. C'était des gens sans instruction. Mais quand l'Esprit est venu sur eux, quand ils ont été remplis de la puissance de l'Esprit de Dieu, vous savez ce qu'ils sont devenus? Des gens pleins de paresseia. Ils sont devenus des parésiens. Et alors, les autres qui les entendaient étaient vraiment étonnés. Je lis avec vous un passage dans Actes 4, 13, le même chapitre. Les membres du grand conseil ou du Sanhédrin étaient étonnés de voir l'assurance ou la paresseia de Pierre et de Jean. Car ils se rendaient compte que c'était des gens simples, des gens ordinaires et sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Vous voyez, les gens étaient étonnés. Les grands, ceux qui siégeaient dans le conseil, le Sanhédrin, c'était des rabbins, c'était des savants. Ils regardent les gens et Pierre, il dit, mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Mais c'est des... gens très ordinaires, ils n'ont aucune instruction, et ils sont capables de parler de manière simple. Et vous savez que Jean et Pierre ont fait mieux que tout le Sanhédrin, parce que Pierre et Jean ont parlé deux fois, et il y a eu 5000 conversions.
Amen.
Et la première fois à la Pentecôte, 3000. La deuxième fois au chapitre 3, 5000. Le Sanhédrin n'avait pas la capacité d'être au niveau des autres pour leur expliquer de manière simple la foi. Jacques, Jean et Pierre parlaient simplement de ce que Jésus a fait pour eux. Parlaient simplement et de manière ordinaire de qui était Jésus. Mais parce que l'Esprit était en eux, et qu'il leur donnait la capacité de parler, qu'il leur donnait cette intelligence spirituelle pour comprendre les autres, pour se mettre à leur niveau et pour répondre à leurs besoins. Alors, le Seigneur a béni leurs paroles et les gens ont rencontré le Christ et ils se sont convertis. Nous avons besoin de cette même assurance que Pierre et Jean. Et Dieu, il nous la donne. Il veut nous la donner. Elle est vraiment pour chacun de nous. Du moment que l'Esprit de Dieu habite en nous, qu'il nous remplit, nous pouvons lui réclamer cette assurance-là. Alors, réclame cette assurance à Dieu pour affronter l'hostilité du monde, ou au moins le sentiment d'hostilité. Mais réclame l'assurance de Dieu aussi pour qu'il fasse tomber tes préjugés. Vous savez que nous sommes remplis de préjugés à l'égard des non-croyants. Oh, nous en avons des tonnes. Et nous avons besoin de nous en débarrasser. Pourquoi? Parce que les préjugés sont un obstacle terrible à notre témoignage, à notre désir de parler. Nous avons le désir, mais quand le désir est là, il y a les obstacles, les stéréotypes, les préjugés qui viennent et qui nous bloquent et qui nous empêchent de parler avec liberté. Et nous avons donc besoin d'une assurance grande, pleine assurance pour parler et pour surmonter ces préjugés. C'est vrai que parfois nous pensons par exemple que nos contemporains ne s'intéressent pas aux questions spirituelles. Premier préjugé qui est très grave. Mais vous savez qu'il y a un besoin de spiritualité. Il y a une recherche de spiritualité. Il y a une soif de spiritualité parce que les gens cherchent et ne sont pas satisfaits. Ce qui arrive, c'est que ceux qui ne sont pas croyants réagissent comme les chrétiens, vous savez. Nous sentons l'hostilité du monde, mais eux aussi, ils sentent l'hostilité à l'égard de la foi. Donc, ils finissent par étouffer leur soif et leur recherche. Mais si nous, chrétiens, nous participons avec le monde pour les pousser à étouffer leur soif, ben, on a tout perdu. Au contraire, on a besoin d'être conscient qu'il y a des hommes et des femmes qui sont à la recherche de Dieu. Mais bien sûr qu'il y en a qui n'en ont rien à faire. Mais bien sûr qu'il y en a qui croient que le monde n'est que matériel et qu'il n'y a aucune réalité spirituelle. Bien sûr qu'il y en a qui ne croient absolument pas en Dieu. Mais bien sûr qu'il y en a qui ont soif de Dieu. Bien sûr qu'il y en a qui ont besoin de Dieu. Bien sûr qu'il y en a qui ont un ardent désir de rencontrer autre chose que ce que la société leur présente. Et nous avons besoin de nous distinguer de la société pour ne pas avoir les mêmes préjugés. Ces préjugés étaient dans le cœur de Pierre. Nous en avons parlé de Pierre. Nous le retrouvons au chapitre 10. Et au chapitre 10, Pierre va voir quelqu'un qui n'était pas juif. Et il va lui dire ces quelques mots. Regardez, verset 28, chapitre 10. C'est Pierre qui parle. Il est allé voir, donc, dans sa maison, un homme qui n'était pas juif, qui s'appelait Corneille. Et il lui dit, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Les juifs n'avaient pas le droit de se lier d'amitié avec des étrangers. Ils ne pouvaient même pas entrer dans la maison d'un étranger. Mais Pierre a surmonté ses préjugés. Et il va être capable donc de présenter Jésus, d'être le témoin de Jésus et même d'amener cet homme qui avait vraiment soif de Jésus. Pierre aurait pu être, vous savez, plein de préjugés en disant « Mais c'est un païen, il adore des idoles, il est perdu, il n'a pas besoin de Dieu, moi je suis juif, je n'ai rien à voir avec lui ». Non, il dit « Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou comme impur ». Je ne sais pas si vous réalisez, mais Pierre avait besoin d'une révolution dans sa tête et dans son cœur pour surmonter cet obstacle, pour dépasser ce préjugé-là. Et malheureusement, dans la vie des croyants, il peut y avoir des préjugés. Je vais vous donner un exemple qui est très intéressant. Dans les années 60, il y avait le Jesus Movement. Ce sont des jeunes qui, d'un seul coup, ont commencé à fréquenter les églises dans le sud de la Californie. Sauf qu'ils étaient, d'une certaine façon, ces jeunes. Les cheveux un peu longs, les pieds nus. C'était le moment des hippies. Et alors, les chrétiens voient cette horde sauvage arriver, ses pieds nus, sales, et la moquette était toute neuve, toute propre. Ils ont dit non, c'est pas possible, ils vont salir notre église. Certains ont décidé que ce rebut de la société, ces hippies, ne sont que des perdus qui n'avaient pas besoin de Dieu. On leur a fermé la porte. Vous vous rendez compte? À cause de quoi? À cause des préjugés. Mais je pourrais dire que nous en avons plein aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui pourraient rentrer. Je ne sais pas si l'un de vous ne se lèverait pas pour lui dire « Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ce n'est pas un lieu pour toi. Tu vas nous salir. » Peut-être pas le carrelage, mais tu vas salir notre réputation. Tu vas ceci ou cela ou je ne sais pas quoi d'autre. Mais c'est scandaleux. Vous savez que un homme en Californie, il y a quand même de vrais chrétiens. Un homme, Chuck Smith, pas Chuck Norris, hein, Chuck Smith, s'est levé et elle a dit aux chrétiens, vous êtes vraiment à côté de la plaque. C'est scandaleux ce que vous faites. Nous allons ouvrir notre église. Ces jeunes ont besoin de Dieu. Ils ont soif de Dieu. Alors ils seront les bienvenus. Avec son église, il y a eu des milliers et des milliers de conversions et de transformations de vie parce qu'ils ont su dépasser leurs préjugés. Et nous en avons absolument besoin. Sinon, on ne pourra pas témoigner. Sinon, on ne pourra pas présenter Jésus-Christ à ceux qui en ont absolument besoin. Maintenant, faisons un test. Vous avez vécu un bon culte, n'est-ce pas? Ce soir, vous rencontrez quelqu'un qui n'était pas à l'assemblée. Alors là, j'imagine déjà la discussion. C'était super. On a loué le Seigneur, on l'a adoré. Vous allez parler pendant une demi-heure. D'accord? Maintenant, imaginons. Vous rencontrez un non-chrétien. Qu'est-ce que vous allez faire? On va rien dire, hein. Vous savez pourquoi? Ils pourraient pas comprendre. Ça les intéresse pas. Il se convertira pas. C'est pas la peine que je lui parle. Qu'est-ce que je suis en train d'énumérer là?
Les préjugés.
Tous nos stéréotypes et nos préjugés. Alors j'en ai noté quelques-uns qu'on va regarder ensemble. Je ne pense pas que la question de la foi les intéresse beaucoup. Donc c'est pas la peine que je lui parle. Ai-je le droit de se parler dans ce lieu? Parce que là vous êtes dans un café. C'est un lieu public, on n'a pas le droit de parler de la foi chrétienne, non? Ce sont des stéréotypes.
Oui.
Que vont dire les gens? Est-ce qu'ils ne vont pas partir et me laisser seul? Ce n'est quand même pas n'importe qui que je vais avoir en face de moi. Ou alors, je vais me ridiculiser. Ah, je peux continuer là? Il y a encore un autre. Je vais déranger la personne. On me dit que la foi, c'est privé, donc je la partage pas avec les autres. Hein. De toute façon, ils comprendraient pas. Ou alors, ils vont croire que je suis fanatique. Je peux pas parler pendant une demi-heure quand même de l'église. Là, ils vont vraiment me prendre pour un débile. La personne n'est pas ouverte, elle ne se convertira pas. Si moi j'ai des doutes, j'imagine que lui, il en a trois fois plus que moi. Alors franchement, pourquoi je lui en parlerai, hein? Vous savez que parfois, nous projetons sur les autres nos propres doutes, nos propres problèmes. Et on imagine que les autres vont réfléchir ou avoir les mêmes réactions que parfois nous en avons. Un jour, dans le collège, j'ai entendu un collègue qui a parlé d'une certaine façon. Et tout de suite, tchitong, à celui-là, jamais il ne s'intéressera à Dieu. S'il parle comme ça, c'est qu'il est vraiment opposé au christianisme. C'est un professeur d'histoire, donc il ne doit pas avoir à cœur qu'on parle du christianisme avec lui. Et je me suis mis ça dans la tête de manière stupide. Et puis un jour, on était tous les deux dans une salle, et il voit sur mon écran un mot. C'était vraiment au hasard, hein. C'était Grégoire de Nazianze. Et il me dit, mais c'est qui celui-là? On a parlé pendant une heure.
Alléluia.
Et je découvre que c'est tout le contraire de ce que j'avais imaginé. Il est à la recherche de Dieu. Il a vraiment soif de Dieu. Il est même croyant. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que je me suis stupidement mis dans la tête une idée absolument infondée, j'aurais pu m'empêcher de parler tout le temps avec lui. Mais Dieu a surmonté quand même ma stupidité à ce niveau-là et il a fait en sorte que je puisse découvrir par moi-même que je suis plein de préjugés aussi. Et c'est ce que nous avons besoin de faire. Je me rappelle une fois, il y avait le concert gospel, vous vous rappelez, il y a 2 ou 3 ans, je crois. Il y avait 500 personnes qui étaient présentes. Il y avait de magnifiques chants. Et puis à un moment donné, Mathieu Koumarianos, qui était le dirigeant de la chorale, a commencé à parler de Jésus, de l'Évangile, et il a pris le temps de parler de tout ça. Et puis, à la fin, il y a un chrétien qui est venu, et il m'a dit, « Tu sais, pendant qu'il parlait, j'avais tellement peur. » Je dis, « Mais tu avais peur de quoi ?»« J'avais peur que les gens ne partent. » Et il s'était mis dans la tête que dès qu'on parle de Jésus, les gens filent. Et il, pendant qu'on chantait, lui, il était dans l'angoisse. Pourvu qu'il reste, pourvu qu'il reste, pourvu qu'il reste. Mais non! Dieu, il agit de manière incroyable. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ce jour-là, ou cette soirée-là, il y avait un silence profond. On avait le sentiment que l'Esprit de Dieu déployait ses ailes, qu'il touchait les gens, qu'il parlait aux gens. Parce que Dieu est plus fort que nous. Et Dieu, lui, n'a pas de préjugés. Il parle à ceux qui en ont vraiment besoin. Et il y a des gens qui ont besoin de Dieu, qui ont besoin de Jésus-Christ. Et nous sommes invités à être des témoins qui ont de l'assurance pour surmonter tout ça. Quand ça me vient à l'esprit, ça me bloque, ça m'empêche de parler. Alors, j'ai besoin d'être un parisien pour aller vers les autres en faisant fi de mes préjugés et en parlant avec liberté aux autres. Daniel Lassé, c'est mon beau-père qui est décédé maintenant depuis une dizaine d'années, je crois. Il a fait un voyage au Kenya, bon, avec Betty. Et donc, il est revenu avec un trésor, avec un coquillage grand comme ça. Le coquillage était dans le buffet, donc vous voyez, dans la salle à manger. Quand il y avait des invités, combien de temps, d'après vous, il fallait avant que Daniel nous sorte le coquillage pour le montrer? Hein? 2 minutes, je crois. Hein. On a chronométré vite. Hein. 2 minutes. Vous savez, on était assis. Et non, parfois, après on nous disait, ah, ça tourne. Hein. Parce que il était tellement fier de ce coquillage que lui-même a pêché. Que lui-même a préparé. Que lui-même a amené du Kenya à la France. Et pour lui, c'était un trésor extraordinaire. Avant 3 minutes, il racontait l'histoire du coquillage. Je l'ai pêché, j'ai fait moi-même la plongée, je l'ai laissé sécher. Et je me dis, mais on a un trésor extraordinaire, on a la perle rare, on a Jésus-Christ, le resplendissement de la gloire de Dieu. Et normalement, ça ne devrait pas nous prendre 3 minutes avant de commencer à parler. Parce que ce que nous avons, c'est infiniment plus qu'un coquillage. C'est le Fils de Dieu. Nous avons chanté tout à l'heure... qu'il est le Dieu incomparable, qu'il est l'infiniment puissant, qu'il est le secourable, qu'il est le resplendissement, il est la lumière éclatante qui envahit notre cœur, il est celui qui remplit notre vie, il est celui qui change notre vie. Et Dieu peut nous donner cette capacité-là de parler normalement et naturellement avec les gens avec fierté. Quand nous prenons la mesure de qui est Jésus-Christ pour nous, quand nous avons goûté à ce que représente Jésus pour nous, nous avons vraiment envie de le présenter aux autres. Et nous voulons bien sûr respecter les autres dans leur cheminement. Nous voulons les respecter dans leur recherche. Nous voulons les respecter dans leur soif. Mais nous voulons leur parler de Jésus avec simplicité. Après, c'est à chacun de faire la part des choses. C'est à chacun de s'engager ou de ne pas s'engager devant Dieu. C'est la responsabilité de chacun. Mais nous avons la perle rare. Nous avons la perle de grand prix qui fera pâlir tous les diamants et tous les beaux coquillages.
Alléluia.
Ah, j'aimerais tant avoir le désir de Daniel. Le désir, le zèle de Daniel. Pour le coquillage, je veux dire. Hein. Au bout de 3 minutes, on a parlé de ce qui nous tient à cœur. Et Jésus nous tient à cœur. Et on le fera quand on surmontera l'hostilité ou le sentiment d'hostilité, parce que les gens ne nous sont pas hostiles. C'est un sentiment qu'on peut avoir. Les médias peuvent être hostiles. La masse peut être hostile. Les individus ne le sont pas. Nous parlerons quand nous dépasserons nos préjugés. Que le Seigneur nous donne d'être cette Église qui rayonne, cette Église témoin de la résurrection, de la vie nouvelle de Jésus-Christ. Prions.